Oui, bonjour, bonjour à tous et bienvenue ici à la salle du Parlement à Delémont. On commence tout de suite ces questions orales avec une question de Raoul Yek.
Réglementer les prix de l'électricité, d'étudier l'introduction d'une contribution pour l'utilisation du territoire jurassien pour le transport ou l'acheminement de l'électricité non renouvelable afin de pouvoir allouer des montants aux petits producteurs de photovoltaïque, par exemple. Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Herret.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, monsieur le député, alors effectivement, vous venez avec un sujet d'actualité puisque le gouvernement transmettra sous peu au Parlement le projet de nouvelle loi sur l'approvisionnement électrique, comme on abrège en l'appel. Et donc cet appel prévoit dans ce qui est proposé au Parlement trois redevances possibles. Une redevance cantonale, une redevance communale qui serait liée à la consommation d'énergie de chaque consommateur. Et puis, bien évidemment, dans le sens de votre question, une concession pour usage du sol qui serait donc, dans le projet proposé, gérée par le canton et au bénéfice des communes concernées.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ?
Très satisfait.
Monsieur le député, Raoul Yagui est satisfait. Pour la deuxième question, monsieur le député Alain Schwein-Coubert.
Madame la présidente, chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, la commune de Delémont, qui a eu durant longtemps deux représentants au conseil d'administration de Régiogaz, donc une position dominante, a décidé unilatéralement de quitter cette société. Au sein du CEOD, la commune de Delémont également a voulu au dernier moment bloquer le projet de biogaz. Le projet d'agglomération est donc visiblement en péril, sachant qu'une commune de la Couronne vient d'en sortir et que d'autres pourraient en faire de même. Triste spectacle que donne notre belle capitale. Ma question est alors la suivante. Le service des communes, le département ou le gouvernement sont-ils prêts, le cas échéant, à initier un processus de médiation afin de mettre un terme à cette gabegie?
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, madame la ministre Rosalie Berès-Cisse.
Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Comme vous, monsieur le député, tant le département des finances comme le délégué aux affaires communales suivent avec attention dans les médias l'évolution de la relation entre plusieurs communes du district de Delémont, que ce soit dans le cadre de la société Régiogaz SA, du CEOD ou encore de l'agglomération de Delémont. Ces structures intercommunales, même si je tiens à le préciser, ne sont juridiquement pas toutes comparables. Régiogaz est en effet une société anonyme, alors que le CEOD et l'agglomération sont des syndicats de communes, ont un point en commun, c'est qu'elles ont été instituées en vue d'accomplir des services qui les plus efficients de piloter au niveau intercommunal plutôt que communal. C'est l'essence même des groupements de communes qui ont démontré jusqu'à présent leur bien fondé. Or, depuis quelque temps, certaines décisions prises de position provoquent des tensions. Je ne peux que le regretter et encourager les protagonistes à revenir à un dialogue plus serein. Dans ce contexte, quel rôle peut jouer l'État conformément aux devoirs de haute surveillance que lui confie la loi sur les communes, dans le respect bien sûr du principe de l'autonomie communale? Donc, premièrement, la loi permet à une autorité communale ou intercommunale de solliciter la délégation aux affaires communales pour assister à des séances et ainsi faire œuvre de médiation. Aucune demande dans ce sens n'a été formulée à ce jour. D'autre part, si des situations illégales, irrégulières ou empêchant l'administration régulière d'une commune ou d'un groupement de communes sont constatées par le délégué aux communes ou un département, l'État est alors légitimé à intervenir de son propre chef. À ce jour, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. La collaboration, monsieur le député, entre les communes est très précieuse. Pour preuve, les nombreux dossiers menés jusqu'à ce jour au sein de l'AGLO, par exemple, qui ont permis de belles réalisations et qui profitent à toute une région, voire à l'ensemble du canton. La situation qui prévaut actuellement au sein de Régiogaz, qui, je le rappelle, est une SA totalement indépendante de la délégation aux affaires communales, semble avoir des conséquences concrètes sur l'AGLO, avec le risque que la dynamique positive qu'on avait vue ces dernières années soit ralentie, ce qu'on peut regretter. En cas de sollicitation, le DFI et le délégué aux affaires communales, conformément à la loi sur les communes, se tiennent prêts à réunir les protagonistes pour trouver des solutions permettre d'aplanir les tensions. J'ose toutefois espérer Madame que cela ne sera pas nécessaire et que les autorités communales sauront revenir, dans l'intérêt public, à une collaboration constructive.
Merci, Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ?
Satisfait.
Monsieur le député Alain Schwein-Groubert est satisfait. Pour la troisième question, Monsieur le député Yves Gigon.
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Ministres, chers collègues, pour encourager Moutier à nous rejoindre, des promesses et des engagements ont été pris, notamment sur le nombre de fonctionnaires, sur les droits acquis au niveau des salaires, sur la délocalisation des services administratifs à Moutier, et j'en passe. Cependant, la situation catastrophique de nos finances obligera le canton du Jura à se serrer la ceinture, notamment au niveau de la réduction du personnel, des salaires et des employés et des prestations octroyées. Il paraît évident que Moutier doit participer également à l'effort de guerre pour rétablir nos finances cantonales lors de sa venue et que les promesses faites à l'époque devront être adaptées à cette situation financière catastrophique. Les franches montagnes de Lémont-Lajoie ne doivent pas être les seules à concéder des sacrifices. Le gouvernement en est-il conscient ?
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, Madame la Ministre Nathalie Bartolo.
Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, faut-il vous le rappeler, Monsieur le député Gigon, que dans le cadre des campagnes de 2017 et 2021, nous nous sommes engagés, tant le Parlement que le gouvernement, à prendre plusieurs dispositions en vue de l'accueil de la commune de Moutier. Ces engagements ont depuis lors été confirmés à plusieurs reprises, la dernière fois le 18 novembre 2021, lors de la conférence de presse de présentation du projet Moutier dans le Jura. Remettre aujourd'hui en cause ces engagements conduirait à décrédibiliser l'ensemble de nos institutions et enverrait une bien piètre image de notre canton. Tout comme l'accueil de la ville de Moutier, le gouvernement a fait de la maîtrise des finances publiques une des priorités de son programme de législature. S'il tiendra bel et bien ses engagements dans le cadre de l'accueil de la ville de Moutier, l'ensemble du canton, Moutier y compris, participera solidairement et de manière appropriée aux réformes ainsi qu'à la nouvelle dynamique qui se mettra en place au sein de notre canton. En effet, l'augmentation de la part jurassienne à la péréquation financière fédérale et l'accroissement des recettes fiscales en provenance de Moutier offrent des perspectives pour le ménage cantonal aussi. Si les finances communales de Moutier ne sont actuellement pas au beau fixe, je vous l'accorde, là aussi, un effort important est et sera consenti par ces autorités. Pour rappel, le cadre légal bernois impose à la cité prévotoise de présenter un budget 2023 à l'équilibre. Finalement, j'aimerais rappeler que l'arrivée de Moutier constitue une magnifique opportunité pour l'administration, pour le canton, de se réorganiser afin d'améliorer en continu la qualité des prestations fournies à la population. C'est en tous les cas l'état d'esprit qui anime le gouvernement et les équipes engagées dans ce projet en tout point stimulant. En conclusion, Monsieur le député, je vous encourage à rester confiant par rapport à l'arrivée de la ville de Moutier dans le canton du Jura et à voir, juste un peu au-delà de la question sensible des finances, toutes les opportunités et les chances que constitue le transfert de la ville de Moutier dans notre canton.
Merci, Madame la Ministre. Votre appréciation, Monsieur le député ?
Partiellement satisfait.
Monsieur le député Yves Gigon est partiellement satisfait. Pour la quatrième question, Monsieur le député Marcel Meyer.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, tout semble déjà bien avancé dans les choix du canton de Berne concernant la relocalisation du CEF artisanat situé à Moutier. Nous regrettons vivement l'absence de dialogue du canton de Berne avec notre canton, alors que plus de la moitié des élèves scolarisés au CEF proviennent du territoire jurassien. Cette proportion se renforcera encore une fois Moutier devenue ville jurassienne. Les discussions dans les milieux concernés vont bon train et une forte insatisfaction de la part de nombreuses entreprises formatrices et des associations professionnelles concernées se fait ressentir à la suite de l'annonce du canton de Berne de vouloir déplacer le CEF artisanat à Bienne. Dès lors, que compte faire le gouvernement jurassien face à cette décision unilatérale et comment entend-il rassurer les entreprises formatrices, les associations professionnelles et les élèves concernés ? Je remercie le gouvernement pour ses réponses.
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, Monsieur le ministre Martial Courtais.
Oui, merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Effectivement, Monsieur le député, nous entendons la même chose. Les ORTRA, les organisations donc, du monde du travail, nous ont également approchés pour nous faire part de leurs craintes. Comme déjà annoncé, le gouvernement jurassien souhaite préserver l'intérêt supérieur des élèves qui fréquentent le site de Moutier, donc en maintenant ces filières. Dans ce domaine, je dois dire que les collaborations intercantonales constituent déjà une réalité. Elles donnent vraiment satisfaction, ça fonctionne bien, notamment en ce qui concerne les métiers de l'artisanat dispensés aujourd'hui à Moutier et à Delémont. Afin de préserver l'intégrité de ces accords, les autorités jurassiennes souhaitent en priorité maintenir le CEF artisanat dans la cité prévôtoise. Il s'agit d'une solution originale, c'est vrai, mais surtout consensuelle, qui permettrait à une institution de formation bernoise de continuer d'accueillir des élèves des deux cantons sur les mêmes bases qu'actuellement. La concrétisation de la relocalisation du CEF artisanat à Bienne, vous le dites, monsieur le député, remettrait de facto en cause les accords de répartition des métiers entre Berne et le Jura. Elle aurait pour conséquence, une conséquence vraiment dommageable, qui serait une renégociation métier par métier avec les différents acteurs du monde économique, donc avec les ORTRA également. Donc, en concertation avec ces ORTRA, les autorités jurassiennes étudient actuellement les différentes options possibles afin de préserver au maximum les différents métiers de l'artisanat à Moutier. Le gouvernement jurassien d'ailleurs communiquera prochainement à ce sujet. Merci de votre attention.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ?
Satisfait.
Monsieur le député Marcel Meyer est satisfait. Pour la cinquième question, monsieur le député Loïc Deblaire.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, dans le cadre des économies supplémentaires du budget 2022, le gouvernement jurassien a décidé de réduire le tarif des logopédistes de 5 francs. Or, depuis des mois, son association était en discussion avec le service de l'enseignement pour déboucher sur une convention tarifaire négociée, négociation à laquelle le chef du département aurait mis un terme. Qu'il faille faire des économies, tout le monde en est conscient, mais cette manière de traiter des partenaires de l'État interpelle à plus d'un titre et remet en question la fiabilité des discussions qui sont menées avec lui. Aussi, le gouvernement peut-il nous indiquer, sans qu'il y voie une quelconque attaque personnelle, quelle sera la suite du dossier de convention tarifaire dans les mois à venir ? D'avance, nous remercions le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Martial Courtais.
Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Madame la Présidente, c'est vous qui lui dites ou c'est moi qui voulez que je le fasse ? Pour la question, c'est une question qui vient au budget d'ici quelques minutes. C'est une des questions des mesures, dans les mesures d'économie.
C'est pas en lien avec le budget directement, c'était préalable, je pense.
C'est une des mesures que le Parlement jurassien a demandé, enfin c'est dans les 10 millions qui ont été demandés, c'est une des mesures qui font partie du budget dont on va parler dans quelques minutes. Ceci étant dit, puisque on peut donner quelques éléments sur cette question, il faut préciser donc que ce Parlement nous demande des économies d'ici en peu de temps, économies de l'ordre de 10 millions. Nous avons travaillé dans l'urgence pour faire des propositions, et de ce fait, font partie des propositions effectivement celles-ci. Ce qui est surprenant ici, c'est qu'on parle uniquement des logopédistes. Finalement, toutes les autres mesures d'économie ont été traitées de la même manière. Aucune mesure n'a été traitée avec une négociation préalable, que ce soit dans toutes les institutions sociales qui sont touchées également, dans l'enseignement qui est touché, que sais-je encore dans les tarifications par rapport à la FRI, les subventions, ou encore au niveau du monde paysan également touché. Donc dans la mesure où ces éléments n'ont fait attrait à aucune négociation préalable, ici il semble que nous pouvons répondre à cette question dans le cadre du budget. Ceci étant dit, peut-être amener un élément quand même sur le montant des tarifs. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on entend qu'il faut toucher à ce montant des tarifs. Je veux dire qu'on a toujours essayé de préserver cela dans une bonne approche et de nombreuses discussions avec l'association jurassienne depuis des années pour trouver un consensus, une bonne façon de travailler. Je vous cite juste quelques chiffres quand même avant de reprendre ce dossier. En 2013, les coûts uniquement de la logopédie privée dans le Jura étaient à 2 800 000. En 2014, 3 100 000. En 2015, 3 350 000. Donc on était dans une approche exponentielle d'augmentation. De ce fait, oui, il y avait depuis longtemps maintenant une remise en question de ces tarifs. Je termine là-dessus. Depuis des années, on évoquait le fait que nos voisins neuchâtelois sont à 120 francs de l'heure. Prenons un autre exemple. Les Genevois sont à 130 francs de l'heure. Que la proposition du gouvernement aujourd'hui soit à 125 ne paraît, à notre sens, pas choquant, mais la question sera reprise d'ici quelques minutes, j'imagine bien.
Merci, monsieur le ministre. Votre appréciation, monsieur le député ?
Évidemment pas satisfait.
Monsieur le député Loïc Deblaire n'est pas satisfait. Pour la sixième question, madame la députée Tania Schindelholz. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Ministres, chers collègues, le souci de voir les fêtes de fin d'année être fortement perturbées par l'augmentation des cas Covid existe grandement dans la population. En particulier, le risque de voir les enfants scolarisés être mis en quarantaine ou en isolement en raison de contamination au sein des écoles n'est pas à négliger. En raison de ce risque important de perturbation de fêtes familiales dont tout le monde a besoin actuellement, le gouvernement bernois a décidé de réduire les probabilités de quarantaine ou d'isolement pouvant se produire durant les fêtes en fixant le dernier jour d'école au vendredi 17 décembre. Ainsi, les derniers contacts entre élèves se produiront une semaine avant Noël. Aujourd'hui, nous apprenons que le Jura ne devrait pas suivre cet exemple. Si nous estimons que l'école en présentiel doit être privilégiée de manière générale, nous nous demandons si le maintien à tout prix d'une semaine d'école déjà amputée d'un jour, durant laquelle les apprentissages ne sont pas fondamentaux, n'est pas une option exagérée et si le gouvernement, en l'occurrence, ne devrait pas accorder la priorité à des mesures préservant la santé des élèves et de leurs familles. Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, Monsieur le ministre Marcel Courtin.
Oui Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Madame la députée, permettez-moi de dire d'emblée que je ne partage pas votre analyse qui dit que les apprentissages ne sont pas fondamentaux. Ça remet en question quand même le travail de l'école et des enseignantes et enseignants. De ce fait, évidemment, je ne souscris pas à vos propos. Par contre, sur le fait... de la consultation, peut-être je peux vous donner ces éléments-là d'information. Sur la consultation fédérale que nous avons évidemment remplie, canton du Jura, nous proposons une solution nationale. Nous pensons qu'en termes d'apprentissage, effectivement, il serait judicieux que le Jura, mais l'ensemble des cantons suisses, puissent avoir la même ligne. C'est pour ça que nous avons proposé ceci. Décision du Conseil fédéral, probablement ce vendredi. Donc, on verra si ça a été pris en compte. Si ce n'est pas pris en compte, effectivement, et c'était dans le quotidien jurassien ce matin, effectivement, ça a été répondu à ce niveau-là. Donc, nous ne souhaitons pas, gouvernement jurassien, qu'il y ait des vacances anticipées, disons, pour les élèves, tout simplement parce que ça fait maintenant 21 mois que nous essayons de maintenir absolument l'école en présentiel. C'est ce qui est le plus efficace pour l'ensemble des élèves. Et nous tenons cette ligne maintenant depuis longtemps et nous continuerons à tenir cette ligne. Vous dire également que, à part Berne, qui est cité effectivement en exemple, les autres cantons romands ne prévoient pas, j'avais des échanges encore avec mes collègues hier, mes homologues des autres cantons ne prévoient pas de vacances anticipées. Vous dire encore, et nous y voyons ici un risque aussi potentiel, c'est que s'il y avait des vacances scolaires anticipées, ça exigerait l'organisation de permanence dans les écoles primaires, puisque tous les parents ne pourraient pas forcément s'organiser pour la semaine prochaine. Et de ce fait, ces permanences seraient aussi un risque important de brassage d'élèves, un brassage encore plus important que maintenant, où il y a le système de classe qui prévaut, et donc potentiellement de contamination. Pour ces différents arguments, effectivement, nous ne souhaitons pas venir à ces vacances anticipées. Et de ce fait, je ne sais pas si vous serez satisfaite de ma réponse, Madame la députée, mais ce dont je suis sûr, c'est que les élèves ne le seront pas. Merci de votre attention.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ?
Partiellement satisfaite.
Madame la députée Tania Schindelol, c'est partiellement satisfaite. Pour la septième question, Monsieur le député Gabriel Voirol.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, la vaccination dans le canton du Jura est à la peine. L'arrivée de renforts de l'armée devrait permettre de rattraper un certain retard. Il convient néanmoins de relever que les procédures pour les rendez-vous vaccinaux apparaissent comme administrativement compliquées. Si la plage horaire proposée par téléphone à un candidat à la troisième dose ne lui convient pas, par exemple en raison d'un engagement déjà agendé à la date proposée, aucun autre rendez-vous ne lui est proposé immédiatement, la procédure prévoyant un rappel téléphonique ultérieur, ce qui n'est manifestement pas optimal. L'ouverture plus large à l'administration de la troisième dose permet de simplifier les contrôles et il devrait être désormais possible d'utiliser un programme de réservation en ligne pour les rendez-vous vaccinaux à l'image de l'application OneDoc, largement utilisée pour les tests Covid. Une telle application faciliterait la prise de rendez-vous et permettrait de mettre en ligne les plages libres pour la vaccination dans les différents lieux proposés pour celle-ci. D'où ma question, le canton envisage-t-il, à l'image du produit OneDoc, d'utiliser un outil informatique pour permettre l'enregistrement en ligne des réservations par les personnes qui souhaitent se faire vacciner ?
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, Monsieur le ministre Jacques Gerber.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, oui, Monsieur le député, la vaccination est à la peine, mais ce n'est pas dû au manque de réactivité du gouvernement jurassien. Bien au contraire, c'est dû au fait que la population est réticente à aller se faire vacciner, ce que dans la situation actuelle, nous avons effectivement, en tant que gouvernement, du mal à comprendre. Concernant la troisième dose, effectivement, nous avons eu des difficultés
a rassemblé suffisamment de ressources pour monter en puissance par rapport à cette vaccination, mais comme toujours dans une crise, la réalité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui et j'ai l'avantage de pouvoir vous confirmer que depuis hier soir, le site est effectivement ouvert pour toute personne qui désire prendre un rendez-vous en ligne dans les 4 centres actuellement à disposition. Avant l'arrivée de l'armée, nous avions tout simplement pas de disponibilité pour prendre davantage de rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le cas jusqu'à la fin de l'année. Je ne peux dès lors qu'inviter l'ensemble de la population de profiter de cette infrastructure et de cette aide de l'armée jusqu'à la fin de l'année pour accélérer le rythme de la vaccination de la troisième dose qui peut être effectivement octroyée dans les 4 sites actuellement avec une inscription en ligne également.
Merci, Monsieur le Ministre. Votre appréciation, Monsieur le Député.
Satisfait.
Monsieur le Député Gabriel Voirol est satisfait. Pour la 8e question, Monsieur le Député Romain Cher.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, sous la rubrique des chiens écrasés, nous avons pu lire dans la presse l'action menée de la commune de Bonfol au sujet de la capture de chats errants. La procédure mise en place par la commune s'est faite, à mon avis de maire, correctement et à ma grande surprise. L'AJPA, l'Association jurassienne de protection des animaux, qui s'est vue associée à cette capture des chats, instrumentalise cet événement via Facebook en montrant du doigt, cette commune qui serait prête à euthanasier ses chats. Il se permet par la voix d'un député de déposer une motion 1379 afin de les aider de manière plus accrue. Ma question, peut-on tirer les oreilles à l'AJPA au niveau cantonal pour le remettre au pied? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, Monsieur le Député. Pour la réponse du gouvernement, Monsieur le Ministre Jacques Gerber.
Oui, Monsieur, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Monsieur le Député, le tirage d'oreilles ne fait pas partie des mesures et des outils à disposition du gouvernement pour corriger des acteurs ou des institutions, mais c'est avec plaisir que nous prendrons position sur votre future motion pour introduire cet instrument. Nous aurons le débat, bien sûr, au niveau du Parlement. Ceci étant dit, on sait que c'est des sujets extrêmement sensibles qui mettent en relation des acteurs très engagés, passionnés, bien sûr l'État avec des bases légales qui, de toute façon, ne satisfont personne, et puis derrière souvent des personnes ou des situations où on a plus affaire à des problèmes sociaux, des problèmes de santé, que réellement des problèmes en lien avec les animaux, mais finalement ce sont eux qui souffrent de ces situations. Dans le cas précis que vous mentionnez, je ne crois pas qu'on va en débattre trop longtemps dans ce Parlement, ce qu'il faut savoir c'est que l'AJPA a agi à Bonfol sur autorisation du SCAV en coordination avec la commune, que ces chats, uniquement les chats malades, transporteurs de maladies, ont été euthanasiés, que les autres sont progressivement capturés pour être placés dans des exploitations agricoles qu'ils le désirent. Donc, je dirais, d'un point de vue légal, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais encore une fois, on sait que ce sont des sujets sensibles et concernant la motion que vous mentionnez, on aura également l'occasion d'en reparler dans le courant de cette session.
Merci, Monsieur le Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le Député ?
Extrêmement satisfait.
Monsieur le Député Romain Cher est satisfait. Pour la 9e question, Monsieur le Député Boris Beret.
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Ministres, chers collègues, si le projet Mobiju et l'introduction de son nouvel horaire est salué par le directeur de l'Office fédéral des transports et le directeur de Carte Postale, les changements concrets sur le terrain laissent certains citoyens sur leur faim. En effet, certaines correspondances semblent insatisfaisantes à Delémont ou en Ajoie, mais c'est principalement la desserte du village de Courcelon qui a subi des modifications conséquentes et celle-ci m'interpelle. En moyenne approximative, Un bus sur deux de la ligne de Delémont-Ensevelier ne s'arrête plus à Courcelon. Aux heures de pointe, ce sont même trois bus sur quatre qui passent de Kourou à Vic ou l'inverse, sans prendre la peine de faire le crochet par Courcelon, commune de 450 habitants tout de même. À la clé, une diminution conséquente des prestations fournies aux citoyens de ce village en matière de transport public. Des écoliers qui se rendent à l'école secondaire de Vic arrivent en retard et des voyageurs arrivant de Porrentruy ou de Bâle peuvent devoir attendre 40 minutes et voir passer trois bus se dirigeant en direction du Val-Terbi avant de pouvoir enfin monter dans un bus qui les amènera à Bonport. Les abonnements contractés avant le changement d'horaire ne permettent clairement plus de profiter de la prestation vendue au temps de l'ancien horaire. Ma question, le gouvernement peut-il nous expliquer pourquoi, suite à l'introduction de Mobiju, on assiste à une telle diminution de la qualité des prestations en matière de transport public dans le village de Courcelon ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Herret.
Madame, monsieur le député, pour vous répondre, je pense que je vais avoir besoin toute la matinée pour vous expliquer comment sont construits les horaires. En tous les cas, sachez que les horaires qui sont entrés en vigueur dimanche passé, il y a trois ou quatre jours, ont été mis en consultation deux fois. Ils ont été mis en consultation deux fois. Et les principaux utilisateurs ont pris note des consultations. Ils ont émis des remarques, des demandes, des objections, des observations particulières. Ce qui n'a pas été le cas de l'école secondaire de Vic, puisque l'école secondaire de Vic a découvert les nouveaux horaires lundi matin et donc a fait part lundi de deux demandes particulières pour adapter l'horaire, effectivement, pour faciliter le transit et, je dirais, l'efficacité des transports pour certains élèves. Donc je dirais qu'on peut regretter le fait que les consultations n'aient pas été prises en compte par l'école concernée. Mais par rapport aux deux demandes qui ont été faites, une a déjà été résolue, l'autre est en cours de résolution, nécessitera des adaptations de temps de départ de certains bus Mobiju. Et voilà donc pourquoi vous semblez faire ces observations, monsieur le député. Quant au hameau au village de Courcelon, eh bien la même chose, les consultations ont eu lieu, la commune a été informée, la commune a été consultée, des discussions ont eu lieu pour choisir la meilleure solution possible, en sachant que l'offre de transport qui a été mise en vigueur dimanche propose plus de transport globalement dans le canton, plus tôt, plus tard, plus de cadence. Au niveau de la région de Delémont, une nouvelle desserte très performante pour la commune en ce qui concerne 4000 travailleurs. Également en ajoie des cadences à la demi-heure sur les heures de pointe pour toutes les lignes, donc ça c'est également très attractif. Et au niveau des franches montagnes, des meilleures correspondances pour accéder à Porrentruy, à Delémont, respectivement également sur Reconvilliers, Tramelan et Bienne. Le but du gouvernement, c'est bien évidemment de développer les transports publics, développer l'offre pour augmenter la part modale des transports publics. Et chaque fois que la part modale est augmentée, c'est un impact diminué au niveau des transports, notamment au niveau des émissions carbone, sachant que les transports en Suisse,
s'il vous plaît, monsieur le ministre,
consomment beaucoup plus émettent beaucoup plus de carbone lorsque c'est en mobilité individuelle par rapport au transport public. Donc, en résumé, monsieur le député, nous sommes conscients que l'horaire est bien meilleur pour une meilleure part modale, ce que souhaite le gouvernement.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ?
Je suis satisfait.
Monsieur le député Boris Buret est satisfait. Pour la dixième question, monsieur le député Pierre-André Comte.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ministres, question récurrente, malheureusement, Madame la Ministre de l'Intérieur. De journal officiel en journal officiel, les publications du ministère public ne manquent pas de créer un sentiment de malaise face aux infractions dénoncées. Dans le dernier numéro du 9 décembre, ce ne sont pas moins de 9 ordonnances pénales édictales qui sont prononcées pour infraction à la loi sur la circulation routière. Elles sont toutes destinées à des conducteurs, je cite, originaires de France, actuellement de domicile inconnu. Comme les amendes infligées ne sont pas vraiment lourdes, on imagine qu'elles ne seront pas payées, que les fautifs continueront de violer impunément la LCR, avec les dangers que cela comporte pour la sécurité des piétons et des usagers de nos routes. Ma question est donc la suivante. Y a-t-il partage d'informations sur le domicile des contrevenants entre police jurassienne et française, et le cas échéant, quelles voies sont possibles pour éradiquer le phénomène mis en exergue par le ministère public.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, madame la ministre Nathalie Berthoulot.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, le partage de données entre les autorités françaises et suisses est exclusivement régi par l'accord entre la Suisse et la France relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière, appelé accord de Paris. Par cet accord, les autorités suisses peuvent obtenir sous diverses conditions des données sur les automobilistes français, notamment leur identité et leur adresse de domicile. Les autorités suisses peuvent également puiser dans leur base de données interne, comme par exemple dans CIMIC, la base de données qui recense notamment les autorisations de travail. Ainsi, lorsqu'une publication édictale est faite au journal officiel, elle ne concerne donc principalement que les délits pour lesquels la notification d'une ordonnance pénale au domicile de l'automobiliste français n'a pas abouti. Le processus, soyez rassurés, monsieur le député, ne s'arrête toutefois pas là. Après la publication au journal officiel, et si l'amende demeure impayée, elle est transformée en une peine ferme de prison et un signalement est effectué à Ripoll, c'est-à-dire dans la base de données des polices en Suisse. Ainsi, dès que l'individu est contrôlé par un policier ou un garde-frontière, il doit soit immédiatement payer son amende, soit purger la peine de prison de substitution avant d'être relâché quelques jours plus tard. J'ajouterai finalement qu'il ne se passe pas une semaine dans le canton sans qu'une personne contrôlée par les policiers ou les gardes-frontières ne doive payer séance tenante une amende consécutive à un délit en raison de la publication de son identité à Ripoll. Il existe donc bel et bien, monsieur le député, un partage d'informations sur le domicile des auteurs de délits entre les autorités suisses et françaises. Celui-ci est strictement réglementé par le droit international et il n'accorde que très peu de latitude aux autorités cantonales qui doivent se plier à des procédures qui parfois peuvent être exigeantes. Elles sont toutefois de loin pas vaines, puisque le passage dans le journal officiel permet ensuite d'interpeller, lors de contrôle, les contrevenants qui jusque-là avaient pu se soustraire au paiement de leur amende. Merci, madame la ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ?
Est satisfait.
Monsieur le député Pierre-André Comte est satisfait. Pour la 11e question, monsieur le député Yvan Godard.
Madame la présidente, mesdames, messieurs, le 29 novembre dernier, nous apprenions dans la presse régionale qu'EDJ avait investi 500 000 francs pour atténuer l'augmentation du prix du gaz distribué dans la ville de Delémont et quelques villages de sa couronne pour le mois de décembre. Geste commercial, pour reprendre les termes de la radio locale, qui va mettre EDJ dans les chiffres rouges pour 2021. Cette intervention non négligeable d'EDJ pour réduire la facture de gaz de ses clients situés sur une toute petite partie du territoire cantonal nous interpelle fortement, sachant qu'EDJ s'est vu confier par le canton de Jura, par ailleurs actionnaire de la société à hauteur de 33,7%, le rôle d'instrument de la politique énergétique cantonale à travers un mandat de prestation. Nous souhaitons donc connaître l'appréciation du gouvernement vis-à-vis de cet investissement, notamment sous l'angle de sa compatibilité avec le mandat de prestation qui lie la société au canton du Jura. Je remercie par avance le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Herret.
Madame, monsieur le député, effectivement, vous avez bien résumé ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau de EDJ et du prix du gaz. Prix du gaz qui, semble-t-il, est très haut, notamment par le fait que le nouveau gazoduc qui traverse l'Allemagne, qui s'appellerait, semble-t-il, Nord Stream 2, n'a pas encore reçu l'homologation du gouvernement allemand, ce qui fait que l'approvisionnement de l'Europe est pénalisé, les prix augmentent. Et effectivement, on le voit directement avec les conséquences, même jusque dans le Jura. En ce qui concerne la décision du conseil d'administration d'investir une partie des réserves pour absorber l'augmentation du prix, c'est une compétence du conseil d'administration et il n'appartient dès lors pas au gouvernement de s'immiscer dans les compétences du conseil d'administration. Par contre, je peux vous rassurer, le conseil d'administration, au travers des deux représentants de l'État au sein de EDJ, est en contact avec le gouvernement pour évaluer la situation actuelle et future. Et concernant votre question précisément de savoir quelle est l'appréciation du gouvernement entre le contrat de prestation transmis à EDJ et cette activité au niveau du gaz, alors il n'y a pas de lien aux yeux du gouvernement puisque le contrat de prestation définit clairement les prestations attendues de EDJ, prestations qui sont rémunérées à hauteur de ce qui est défini et cela donc n'a pas de conséquences directes.
Merci, monsieur le ministre. Votre appréciation, monsieur le député ?
Satisfait.
Monsieur le député Yvan Godard est satisfait. Pour la 12e question, monsieur le député Yann Rouffert.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, après avoir subi un quasi-point mort à fin novembre, la vaccination reprend de l'ampleur suite à l'autorisation fédérale pour la troisième dose. Cette situation particulière a conduit le CEVAC à ne plus reconduire des contrats pour le personnel de vaccination alors que, quelques jours plus tard, on apprenait que le canton allait faire une demande à l'armée afin d'obtenir du personnel qualifié pour répondre à la forte demande liée à la troisième dose. On a également pu lire dans la presse que, contrairement à la première intervention de l'armée, le personnel détaché, cette fois-ci, serait totalement formé et opérationnel pour la vaccination. Ma question au gouvernement, au vu de la forte demande pour la troisième dose de vaccin, est-ce que le personnel vaccinal qui ne s'est pas vu reconduire son contrat à fin novembre a nouveau été sollicité en priorité avant le recours de l'armée? Et est-ce que le personnel de l'armée est bien formé au préalable pour cette tâche? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Jacques Gerber.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, deux questions en une, mais comme elles sont importantes, je tâcherai d'y répondre aux deux. Vous l'avez dit, monsieur le député, fin novembre, nous n'avions plus suffisamment de personnes à vacciner pour maintenir l'ensemble des équipes, ce qui nous a obligés à ne pas reconduire 11 contrats de personnes qui travaillaient dans ces centres. L'ensemble de ces personnes, à l'exception d'une, ont été recontactées, évidemment, avant de faire appel à l'armée. C'est pas quelques jours plus tard, c'est un mois plus tard. Et dans le cadre d'une pandémie telle que nous la vivons, un mois, c'est très, très long ou très rapide pour que la pandémie se développe. Donc la situation à début décembre, mi-décembre, n'est pas du tout la même que celle qui a conduit à ce non-report des contrats. Donc évidemment, toutes ces personnes ont été recontactées. Seules 4 d'entre elles ont pu réellement réintégrer les équipes parce que les autres ont retrouvé du travail. 6 d'entre elles ont retrouvé du travail. Une seule n'a pas été recontactée par les services de l'État pour des raisons propres. Pour le reste, beaucoup de personnes, suite à notre appel, se sont présentées librement à l'État pour mettre à disposition leurs compétences, mais il est vrai que c'est extrêmement difficile d'intégrer dans les équipes des personnes qui veulent venir une demi-journée, quelques heures, entre midi et une heure, le soir ou simplement le week-end, voire le dimanche. Et c'est vrai que c'est un travail gigantesque d'intégrer ces personnes. On essaye de le faire, mais on doit aussi garantir évidemment la qualité derrière. Vous en conviendrez avec moi, il est préférable peut-être d'éviter de prendre toutes les personnes qui se présentent, mais d'être capable de garantir la bonne qualité des pics qui sont faits dans ces centres. Concernant justement le profil des militaires, ces militaires font partie d'écoles de longue durée au niveau sanitaire. Ils arrivent chez nous formés et la qualité est garantie comme si vous aviez des infirmières qui prodigent ce pic. Donc aucun souci de qualité par rapport au nouveau centre avec l'appui de l'armée actuellement en fonction depuis lundi.
Merci, monsieur le ministre. Votre appréciation, monsieur le député ?
Satisfait.
Monsieur le député Yann Rouffert est satisfait. Pour la 13e question, monsieur le député Alain Colère.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, en date du 10 décembre dernier, le Conseil fédéral a approuvé l'adaptation du plan directeur relative à l'énergie éolienne. Maintenant, tous les feux sont ouverts pour les 5 nouveaux sites retenus et celui de la Haute-Borne peut d'ores et déjà faire l'objet du projet modèle. Ma question est simple. Le gouvernement peut-il nous informer sur le calendrier des travaux depuis aujourd'hui et jusqu'au premier kilowattheure sorti du futur parc de la Haute-Borne? Merci au gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre David Herret.
Ah, monsieur le député, non, le gouvernement ne peut pas vous donner le calendrier des travaux, ni du coup de pioche, ni de quoi que ce soit. Par contre, la prochaine étape dans ce projet modèle, c'est bien évidemment d'entrer en discussion avec les 4 communes hôtes et également le porteur du projet, en vue de, bien évidemment, de démarrer les choses, démarrer le projet, démarrer les démarches. Et ceci, bien évidemment, avec une approche participative, comme prévu dans l'affiche. Et je vous rappelle que les communes donnent leur accord à l'engagement de la procédure de plan spécial cantonal. C'est ce qui est précisé dans l'affiche 506. Et donc, en finalité, ce sera donc un plan spécial cantonal qui sera publié et déposé. Et le calendrier dépendra, bien évidemment, de la vitesse d'avancement de chaque étape, de chaque procédure, et peut-être également d'éventuelles oppositions qui pourraient être déposées au fur et à mesure des possibilités. On le sait que dans ce domaine-là, c'est sensible, c'est des choses qui arrivent. Mais en tous les cas, l'État est satisfait de voir le Conseil fédéral valider le travail qui a été fait à la fois par le gouvernement, qui a proposé la fiche au Parlement, et par le Parlement, qui a donc validé cette fiche. Donc on peut être satisfait du travail qui a été approuvé par le Conseil fédéral, même si le Conseil fédéral a mis un petit peu plus de temps que prévu pour valider cette fiche, et donc, de ce fait, péjore un petit peu le calendrier qui sera défini au fur et à mesure des étapes.
Merci, Monsieur le Ministre. Votre appréciation, Monsieur le Député ?
Satisfait.
Monsieur le Député Alain Colère est satisfait. Pour la 14e question, Monsieur le Député Bernard Studer.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers et chers collègues, vendredi dernier, le gouvernement jurassien a présenté son plan sectoriel des eaux. Le contenu et la forme de ce document stratégique sont d'excellente qualité. Ce plan fixe les orientations et les actions à réaliser d'ici 2030. Il comprend 54 mesures dans les domaines de l'approvisionnement en eau potable, de l'assainissement et de l'aménagement des cours d'eau. Parmi celles-ci, la mesure D8, appliquer les dispositions du plan spécial cantonal PRE dans le terrain, a retenu notre attention. Elle indique que le plan spécial cantonal périmètre réservé aux eaux sera approuvé en 2021. Le gouvernement peut-il nous indiquer si les oppositions formulées à son encontre lors du dépôt public intervenu il y a près de 2 ans sont à présent levées et nous confirmer que son approbation interviendra bel et bien ces tout prochains jours? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, Monsieur le Député. Pour la réponse du gouvernement, Monsieur le Ministre David Herret.
Madame, Monsieur le Député, effectivement, vous relevez un élément essentiel, c'est que le périmètre réservé aux eaux est une mesure centrale du plan spécial, du plan sectoriel des eaux. 96 oppositions ont été déposées qui ont sollicité passablement le service de développement territorial, l'office de l'environnement et bien évidemment surtout le service juridique. Alors effectivement, le gouvernement sera appelé à statuer sur les différentes oppositions très prochainement. Alors, il était prévu que ce soit encore possible en 2021. Les différentes discussions budgétaires ont remis quelques priorités au sein du gouvernement et de la fonction publique. Mais il est prévu que début 2022, le gouvernement puisse statuer là-dessus et donc faire avancer ce projet, sous réserve, bien sûr, des procédures ultérieures qui pourraient être engagées par l'un ou l'autre opposant.
Merci, Monsieur le Ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le Député ?
Satisfait.
Monsieur le député Bernard Studer est satisfait. Pour la 15e question, Madame la députée Céline Robert-Charulinder.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, la problématique du GHB, drogue de soumission communément appelée drogue du violeur, s'invite de plus en plus dans l'actualité régionale. L'émission Mise au point a d'ailleurs réalisé dimanche soir dernier un reportage à ce sujet. On dénombre des cas récents à Neuchâtel, à Bienne et dans le canton de Vaud, où l'interpellation d'une députée a incité le Conseil d'État à instaurer un dépistage systématique du GHB. En parallèle, la parole se libère, une réflexion s'opère et des moyens d'action sont instaurés. Ma question est la suivante. Quelle est la situation dans le canton du Jura et quels sont les moyens de prévention, voire d'action mis en place pour protéger les jeunes de ce fléau, qu'ils soient femmes ou hommes, ces derniers, il est important de le préciser, étant également concernés. Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, Madame la ministre Nathalie Barthoulot.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, comme vous l'indiquez très justement, la consommation du GHB est actuellement très peu monitorée en Suisse. On ne dispose quasiment pas de chiffres à ce sujet, que ce soit en consommation volontaire ou en consommation forcée, comme drogue du violeur. On sait uniquement qu'une consommation existe, mais qu'elle est pour l'heure très marginale. Depuis plus d'une année, le Centre universitaire roman de médecine légale recherche systématiquement la présence de GHB lors d'analyses sur des victimes de violences ou d'accidents. Un premier rapport sur les résultats ne sera toutefois pas publié avant le printemps 2022. Contrairement aux cas signalés, notamment dans les cantons romands, aucun cas n'a été récemment signalé à la police cantonale jurassienne. Il n'y a dans le canton du Jura et à ce jour aucune procédure pénale en cours pour une consommation forcée de GHB, ni aucun cas signalé récemment. Le personnel hospitalier ainsi que les agentes et agents de la police sont sensibilisés et très attentifs à cette problématique. À ce stade et compte tenu de la situation qui prévaut dans le canton, il n'y a pour l'heure pas de nécessité de prendre de mesures particulières. Le conseil qui peut néanmoins être donné est de toujours bien sûr avoir son verre sous surveillance, idéalement couvert lors de soirées dans des restaurants, des bars ou encore des boîtes de nuit. En cas d'agression supposée, il faut absolument que les victimes se rendent le plus rapidement possible à l'hôpital en cas de suspicion d'agression contre son gré de GHB et ou de violence sexuelle, en gardant toutes les traces sur soi. Ça veut dire sans se changer, sans prendre une douche avant de se rendre à l'hôpital. Et ça, c'est hyper important parce qu'on le sait, le GHB est une drogue qui disparaît très rapidement et pour laquelle il est difficile de mettre parfois en évidence certaines preuves. En conclusion, on peut à ce stade être plutôt rassuré car la drogue du violeur ne semble pour l'heure pas d'actualité dans le canton du Jura. La police reste néanmoins très attentive à l'évolution de la situation et les différentes informations qui circulent à ce sujet entraînent, je l'espère, une vigilance accrue du côté des jeunes. Merci Madame la Ministre. Votre appréciation, Madame la Députée ?
Satisfaite.
Madame la députée Céline Robert-Charulinder est satisfaite. Pour la dernière question, Monsieur le député Gauthier Corba.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers et chers collègues, le 23 juin dernier, la Fondation Mémoire, Art et Forêt Bonfol, à pied d'œuvre dans ses démarches de recherche de fonds pour le projet Landart, 6 sur l'ancienne décharge, informait de la prolongation du délai du plan d'affectation spéciale, soit jusqu'à fin avril 2022. Passé ce délai, le mur de la halle d'excavation des déchets, symbole du site, sera détruit puis évacué par la chimie baloise. À fin 2021, renseignement pris, le financement du projet n'est pas encore assuré. L'importance mémorielle et historique du site est incontestable. Il est également un atout majeur du contrat d'axe pour la pérennisation de la ligne CJ Porrentruy-Bonfol, signée par les communes concernées et le canton. Dans ce cadre, le gouvernement est-il prêt à s'engager, le cas échéant, aux côtés de la Fondation, afin de négocier le maintien du mur, tout ou partie, de manière à garder intact le potentiel du site pour d'éventuelles nouvelles propositions ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre Martial Courtais.
Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Il faut peut-être rappeler, monsieur le député, le rôle de chacun dans ce dossier. Donc, effectivement, vous avez mentionné la Fondation qui porte ce dossier et l'État qui est autorité de subventionnement. Alors, je peux donner quelques informations au niveau de ce subventionnement. Donc, ici, au titre de conservation des monuments historiques, donc ça serait tout à fait envisageable, effectivement. Cela impliquerait l'inscription à l'inventaire des monuments historiques. Donc on peut dire aujourd'hui que la Fondation peut sans autre nous contacter afin d'initier cette démarche, sans problème. Un monument historique peut être considéré comme tel en raison des aspects architecturaux, artistiques ou historiques. Alors selon ce que vous dites, et je rejoins votre propos, effectivement ici ce mur a indéniablement une valeur historique au vu de ce qu'il représente. De ce fait, je peux terminer ces informations sur deux éléments attraits aux subventions. Il y a donc deux possibilités qui peuvent s'additionner. La première, c'est la subvention cantonale qui représente, et on le voit ces dernières années, un montant de l'ordre de 10% des frais subventionnables. Donc les frais subventionnables, ceux qui concernent donc les frais engendrés pour les travaux nécessaires à la conservation de ce mur, en l'occurrence. Et par effet de levier, nous obtenons aussi, le canton du Jura, la plupart du temps, une subvention fédérale, donc par effet de levier, qui est de l'ordre de 10 à 15% de ces mêmes frais subventionnables. Merci de votre attention.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ?
Très satisfait.
Monsieur le député Gauthier Corba est satisfait. Nous arrivons au terme de ce point. Toutes les personnes inscrites ont pu poser leurs questions et nous pouvons dès lors passer au point 3 de notre ordre.
Voilà pour ces questions orales ici au Parlement. Vous les retrouverez dans la journée sur notre site rfj.ch ainsi que toute l'actualité du Parlement. Je vous souhaite une très belle journée.